Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le débrief de la tech qu'on aurait surnommé maintenant le débrief de l'IA, parce qu'on parle que de l'IA.
On parle de ça.
Et même dans d'autres sujets, on réussit toujours à rebondir sur l'IA avec nos débriefeurs ce soir. Donc on va revenir beaucoup de choses qui se sont faites autour de Washington, autour d'OpenAI, Claude. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Damien Douani, bonsoir Damien.
Salut Fred.
Responsable d'innovation de l'école narrative avec deux I et fondateur de Topos. Avec nous également Michel Lévy-Provençal, prospectiviste fondateur de TEDx Paris. Et de l'agence Brightness, qui aura peut-être une annonce à nous. On en parlera tout à l'heure avec Michel. Et puis, bonsoir Michel, merci d'être
bonsoir
avec nous.
Bonsoir Frédéric.
Et à distance, mais tout proche de nous, il était avec nous d'ailleurs il y a quelques jours, puisqu'il est venu faire un tour à Vivatech, Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Regardez, il est magnifique, il nous attend. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous.
Bonsoir Frédéric.
Un Vivatech qui s'est bien passé, le retour s'est bien passé. Tu étais content de cette édition de Vivatech?
Ça valait vraiment le voyage et ben, évidemment la possibilité de rencontrer bien des gens, mais surtout de voir que Vivatech se porte bien, que l'industrie française se porte bien et qu'il y a de l'espoir pour la suite.
Bon, eh bien, écoute, merci pour ton message, parce que ici, parfois, on a un petit peu de mal à se motiver, mais on y va. Allez, on démarre avec cette actu. C'est un nouveau rebondissement dans le feuilleton Mythos, hein, l'IA surpuissante d'Anthropique, qui avait été suspendue il y a une quinzaine de jours par Washington, au nom de la sécurité nationale. Ça avait été un vrai électrochoc, hein, on en a beaucoup parlé à Vivatech. Eh bien, finalement, Mythos 5 est finalement à nouveau autorisé, mais pas pour tout le monde. Ça reste quand même très encadré. On écoute ce qu'en dit Anthony Morel et on revient en plateau en parler tout de suite après.
Alors visiblement, les tensions assez vives entre Anthropique et la Maison Blanche sont redescendues d'un cran, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 15 jours, ça s'était fait de manière très brutale. Hein. Ils avaient donné une deadline de 90 minutes pour débrancher complètement Anthropique, notamment à cause de sa capacité à détecter des failles de sécurité critiques dans les logiciels. Alors finalement, Anthropique est à nouveau autorisé, mais pour un tout petit nombre de happy few, si l'on peut dire. On n'a pas la liste exacte. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de spécialistes de la cyberdéfense et de quelques opérateurs d'infrastructures critiques et surtout qu'ils sont tous 100% américains. Et ça, c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que même les grandes agences de cybersécurité européennes ou asiatiques, par exemple, qui auraient eu tout intérêt à avoir accès à cette IA qui permet de détecter des failles, donc de pouvoir détecter très en amont de potentielles vulnérabilités informatiques, eh bien, n'auront pas accès à cette IA. Alors, on n'a pas encore tout à fait de nouvelles sur Fable 5, qui est la version édulcorée de Mythos. A priori, elle devrait être réautorisée cette semaine, selon la presse américaine, avec un périmètre qui reste encore à déterminer. En tout cas, c'est une nouvelle démonstration brutale de notre dépendance technologique à ces grands modèles américains desquels on peut être coupé du jour au lendemain. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision intervient quasiment au même moment où OpenAI a dévoilé son propre modèle de nouvelle génération, GPT-5.6 Sol, concurrent direct de Mythos, qui lui aussi sera réservé à quelques utilisateurs triés sur le volet et validés par la Maison Blanche.
Voilà, il se passe beaucoup de choses, hein. On l'a compris du côté de ces IA. On reviendra sur OpenAI dans un instant. Bruno, on va démarrer avec toi, Bruno Guglielminetti, mon carnet de l'actualité numérique. Qu'est-ce qu'on en dit de outre-Atlantique, là, donc, de cette Anthropique Mythos 5 débloquée, alors, pour une centaine de partenaires, à peu près, aujourd'hui?
Ben, c'est presque une bonne nouvelle, presque parce que, bon, on commence à voir que la Maison-Blanche laisse des accès, mais comme Anthony le disait dans son débrief, c'est quelques gens autour de l'entreprise. On parle, et tu le disais, une centaine de personnes et surtout personne à l'extérieur des États-Unis. Et ce qu'on est en train de voir avec cette décision-là de la Maison-Blanche, mais aussi avec le déploiement qui est permis avec celui d'Anthropique, mais aussi avec celui d'OpenAI dont on parlera plus tard, c'est que finalement, la Maison-Blanche et les États-Unis sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle qui devient très puissante comme un levier de pression. Et souvenez-vous, il y a un an et demi, quand Donald Trump est arrivé en place, on s'est dit, et c'est là où on a relancé toute la discussion autour de la souveraineté numérique, on s'est dit, bon, ben là, tranquillement, pas vite, ils vont utiliser ou les réseaux sociaux, ou l'info nuagique, le cloud, ou d'autres outils numériques pour faire de la pression sur les pays autres que les États-Unis. Et là, finalement, on est en train de voir que c'est peut-être pas de la latence sur les réseaux, c'est peut-être pas des services qui seront coupés dans l'info nuagique, non, mais ça sera peut-être l'IA. Alors là, vous avez tous les partenaires naturels des États-Unis qui sont au qui-vive et qui attendent avec espoir la possibilité de pouvoir utiliser ces outils-là. Et ben, il y a la Maison-Blanche qui tient ça dans sa main et un peu comme une carotte en disant ben, peut-être que vous allez l'avoir, peut-être que vous ne l'aurez pas. Et ça soulève encore une fois toute l'histoire de la souveraineté et le besoin pour les grands pays, les grandes régions du monde, de se doter d'outils, parce qu'on peut pas attendre que les Américains décident de nous ouvrir gentiment la porte. Quand ils vont nous ouvrir gentiment la porte, vous pouvez imaginer qu'il y aura une autre version qui, celle-là, sera encore plus puissante et sera réservée aux Américains.
Donc, pression géopolitique, pression technologique, communication aussi quand même un peu autour de tout ça, Michel, Lévy-Fransal.
Écoute, je vais peut-être contredire un tout petit peu ce qu'on vient d'entendre, parce que moi je ne crois pas du tout à la vision qui consisterait à une pression américaine sur l'Europe dans cette affaire-là. Je pense que si on reprend la chronologie de ce qui s'est passé, on va la faire courte, hein. Le CEO d'Amazon envoie un message aux acteurs autour de la maison de Trump à la Maison Blanche il y a à peu près une quinzaine de jours, disant on a un problème, nos ingénieurs ont réussi à trouver des failles très importantes avec vos outils et les outils d'Anthropic. Et effectivement, en 90 minutes, il fallait que Anthropic coupe les accès, notamment à l'étranger, aux acteurs étrangers pour des raisons de sécurité intérieure. On a entendu après que la NSA avait pu voir un certain nombre d'acteurs pénétrer dans leur système à cause de l'usage de ces modèles. En fait, Anthropic n'a pas su couper uniquement aux acteurs étrangers, donc ils ont décidé de couper à tout le monde. C'est ça qui s'est passé. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de discours après, de politiques européens, de Français disant ben, « en fait, on est visé directement, c'est une pression ». Non, en fait, c'est pas du tout une pression. Il est vrai, en revanche, que ces outils, ces IA, sont les plus puissantes du marché et qu'on s'était habitué à les utiliser, notamment Fable 5, en l'espace de presque deux semaines. Moi, je
connais les entreprises, ça, à 18 heures, on peut couper.
Et donc, on s'est vu couper le robinet. Et donc on s'est dit, on n'a pas d'alternative européenne à ça. Donc il est vrai qu'on a besoin de solutions équivalentes, pas forcément aussi puissantes, mais équivalentes et qui soient souveraines. Pour autant, le discours qui consiste à dire nous sommes en tant qu'Européens directement visés par cette décision, à mon avis, il est totalement exagéré.
Bruno, tu veux réagir ?
Oui, ben, ça vise pas uniquement les Européens, ça vise tous ceux qui ne sont pas américains. Et la preuve est que, il y a deux semaines, quand ça a été bloqué, les employés qui n'étaient pas américains sur le sol américain, ils n'avaient pas accès. Et c'est encore aujourd'hui la chose. Alors, imaginez le problème quand on sait que ces grandes boîtes-là, autant Anthropic qu'Amazon, Microsoft et compagnie, roulent sur des cerveaux qui viennent de l'étranger, notamment des Français, pour développer tous ces outils-là. Et à ces gens-là qui sont même au sein de l'entreprise et dans les bureaux, ils n'ont même pas accès à ces outils-là. Alors, ce que je veux dire, là, c'est on ne vise pas que la France, que l'Europe, mais on vise ce qui n'est pas américain.
Allez, on attend le Canada pour une nouvelle étoile sur le drapeau européen, Bruno. Damien.
Par rapport à ce que disait Michel sur le fait de dire que finalement, à l'origine, la volonté n'était pas de viser forcément, on va dire, les Européens, mais de dire qu'il fallait qu'on arrête, je pense que l'administration Trump y a vu une opportunité, justement, de faire un levier d'asymétrie. Donc, autrement dit, de se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire un prototype de gouvernance, on va dire, distincte, on va dire, mondiale, et de se dire qu'après tout, effectivement, quand on voit ce que ça provoque sur les acteurs américains et non américains, il y a certainement un levier de négociation. Et Trump adore le principe de négociation, parce que tout est basé sur cette logique de deal et de négociation. Donc là, à nouveau, on a un levier de négociation, on va pas s'en priver, même si c'est une boîte américaine, et on verra bien, elle va rentrer quand même en bourse prochainement, mais je pense qu'il y a de la part de Trump, il y a une dimension à la fois de levier de négociation vis-à-vis de l'extérieur du pays, mais peut-être même vis-à-vis de l'acteur lui-même qui est Anthropic.
On sait qu'il y a quelques dissensions, notamment avec le Pentagone et Anthropic.
Oui,
voilà.
Ouais.
Et les
mais en gros, la question de fond, c'est qu'il bosse.
Pro-Trump.
C'est qui le patron et c'est qui le boss. Et donc, par conséquent, on va aussi. J'ai la possibilité, moi, Trump, administration américaine, de faire un levier. Et quelque part, c'est assez intéressant parce que ça prouve le fait qu'il y a une volonté peut-être de prendre la main sur des acteurs, quels qu'ils soient. Alors, en France, on parlerait de nationalisation, on va pas parler de, c'est pas le cas. Mais tout le monde, il y a quand même une volonté de prendre la main ou de dire, attendez, c'est qui le patron ici? Et donc, c'est intéressant parce que ça renforce d'autres alternatives. Tu en parlais tout à l'heure, Michel, sur le fait de se dire, qu'est-ce qu'on a sous la main? Et les Chinois qui en face jouent mais à fond la carte de l'open source, donc, ah, ben, on va continuer ça parce qu'après tout, on a une fenêtre. Donc il y a un jeu géopolitique qui est en train de se positionner qui est assez intéressant et qui est un jeu compliqué.
Sur ce point, Michel, peut-être qu'il faut rappeler que début juin, il y avait une directive qui avait été fixée par l'administration Trump qui disait 90 jours, 60 jours, 30 jours, c'était pas très clair, mais il fallait donner la possibilité aux éditeurs d'IA de passer par la fourche codine d'un certain nombre de vérifications. En fait, là, ils n'ont plus trop le choix. Oui. Et on le voit, et on va en parler tout à l'heure avec GPT-5.6, on passe automatiquement sous la fourche codine. Mais pourquoi ils le font ? Moi, je maintiens cette idée que c'est un effet collatéral pour les acteurs étrangers. Mais ça n'est pas la première des, c'est pas le premier des objectifs, à mon avis, pour l'administration.
Regardez un peu l'histoire, le chiffrement. Ça s'est passé comme ça aussi. Le chiffrement, au départ, les clés de chiffrement, je remonte à plusieurs années, les clés de chiffrement, au départ, c'était uniquement pour les Américains.
Oui.
Et puis ensuite, ils l'ont reporté. Et on pourrait trouver d'autres exemples, mais je suis sûr, dans d'autres industries, où les Américains ont dit, attendez, on va d'abord essayer de réguler ça chez nous, enfin de réguler. On va d'abord essayer de mieux contrôler, mieux maîtriser tout ça. Mais le chiffrement, les clés RSA 256 bits, regardez, replongez-vous dans l'histoire, ils ont fait la même chose.
Tu as raison. Le seul point, c'est que là, on est sur une technologie qui a un impact monumental. C'est-à-dire que je pense que la crainte du Pentagone et de la NSA et de, finalement, la Maison-Blanche, c'est que ces outils puissent être utilisés à des fins de construction d'armes biologiques, à des fins d'attaques cyber. Et donc, le premier des réflexes, c'est de dire, on va les garder sur notre territoire. Mais il y a des effets collatéraux. C'est de croire, nous, Européens, que nous sommes visés. Je ne pense pas que nous sommes en première intention visés. Et le deuxième effet collatéral, et on pourra en reparler, tu en as parlé,
mais
Damien.
On est quand même atteint.
On est quand même atteint. C'est que ça donne un boulevard aux Chinois.
Monsieur.
Parce que les Chinois, aujourd'hui, ont des modèles qui commencent à toucher vraiment le niveau de qualité des plus gros modèles américains, et sauf qu'ils sont effectivement open source.
Surtout que, et ce sera notre deuxième news du jour dont on va débattre ensemble, GPT-5.6, donc baptisé Sol, d'OpenAI, se voit déjà restreint par les États-Unis avant même sa sortie. Donc après Anthropique, allez, je tape un coup sur la tête d'OpenAI.
À nouveau, je pense qu'on retombe sur cette logique de, à la fois on montre que l'État américain a la volonté de montrer qu'ils ont la main. Il y a quand même cette dimension, quelque part, de faire basculer des outils qui étaient des outils principalement vus comme des outils grand public et massivement développés et diffusés.
Quand on dit le gouvernement américain, on sait, est-ce que c'est la NSA, est-ce que c'est la CIA,
c'est pas clair.
C'est ça aussi.
C'est clairement pas clair.
Parce que, est-ce qu'il y a des types super intelligents là dans la Maison Blanche qui disent les gars, ça va trop loin.
C'est clairement pas clair. Ce qui est évident, c'est que ça fait basculer.
Alors, est-ce que c'est un comité, voilà, tu vois, de scientifiques du MIT, de tout ça.
De toute façon, il y a manifestement un principe de précaution et ça fait de fait basculer des outils qui étaient plutôt donc majoritairement grand public, on va dire ouverts au plus grand nombre, dans des outils de type armé, on va dire des armes, et avec législation qui vont avec. Ça pose des questions, effectivement, et le questionnement aussi de se dire, est-ce qu'il y a une volonté aussi après de faire pression ? Ça, c'est un autre élément.
Ouais. Il y a eu un décret au départ,
puis on passe à parler
le 2 juin dernier, qui est passé et qui consistait à avoir cette fameuse revue. Ils ont modifié le décret pour passer de 90 jours à 30 jours sous la pression d'un des membres du comité entourant Trump. Mais là où c'est flou, c'est véritablement ce qui s'est passé. On a entendu un certain nombre d'éléments qui ne sont pas uniquement des rumeurs, mais certains ont été validés, vérifiés. Le patron d'Amazon, la NSA. Et puis, il y a, comme toutes les décisions de Trump, à un moment donné... la décision du chef, du roi, de l'empereur,
sans
de Trump,
forcément
quoi.
Des
sans
arguments,
sans forcément avoir des arguments légaux qui sont sur la table. Ouais. Donc on est dans un énorme flou et du jour au lendemain, les choses peuvent changer. On va le voir peut-être avec Fable 5.
Bruno, qu'est-ce que tu vois de tout ça là, par rapport à ce qu'on dit Damien déjà et Michel?
Ouais. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire de dans le cas de OpenAI, c'est que évidemment ils ont vu la tempête arriver avec Anthropic. Ouais. C'est-à-dire qu'Anthropic s'est fait fermer le robinet. En tout cas, s'est fait inciter à fermer le robinet en 90 minutes.
Je t'interromps, Bruno. Ils ont pris plein de garde-fous, OpenAI. Ils ont dit voilà, on va le faire tester pendant 720 000 heures de on va le faire tourner, etc. Enfin, c'est incroyable.
Et c'est justement où je m'en vais, c'est que comme ils ont vu la pression qui avait été mise là-dessus, et sachant un peu pour revenir effectivement sur ce qui a été mentionné, que maintenant, il y avait en place cette loi américaine qui demandait d'avoir la mainmise sur l'outil puissant avant qu'il soit rendu à l'extérieur. Bon, ben là, les gens d'OpenAI, ils savaient comment fonctionner. Et quand ils ont dévoilé l'outil hier, ils ont dévoilé les trois versions qui existent maintenant en disant, ben oui, mais là, pour le moment, ils ne seront pas disponibles pour tout le monde ou enfin pour certaines personnes ou certaines organisations de confiance. Mais au moins, là, on savait comment la danse allait être organisée. Alors, ils n'ont pas été pris par défaut comme il s'est passé avec Anthropic. Alors, ça se fait un peu plus élégamment, mais résultat, tout ce qui vit à l'extérieur des États-Unis ne peut pas vraiment avoir accès à ça. Alors, j'ai l'impression que ça sera la nouvelle façon de procéder et à la fois pour la sécurité des Américains, il faut leur donner ça, mais de l'autre côté aussi, je pense que je reviens avec l'idée de levier, comme Damien le disait, c'est un levier qui est important pour l'administration de Donald Trump et il va pas se gâcher ce plaisir-là.
Deux questions, là. Je démarre avec toi, Damien. La première, c'est je suis une entreprise européenne, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Deuxième chose, est-ce que ce GPT 5.6 ou est-ce que ce Mythos 5 est vraiment beaucoup, beaucoup plus puissant ou alors est-ce que je peux me contenter, justement, en tant qu'entreprise, je me contente de la version un peu plus basique, enfin, la version juste en dessous, mais qui est autorisée?
Déjà, je pense que la réponse est dans la question. Oui. Comment on dit,
de toute façon, on peut faire que ça.
De fait, voilà, il va falloir faire avec.
C'est vrai.
Et c'est déjà pas mal. Faut pas se mentir. Hein. Ce sont des modèles quand même qui fonctionnent très bien, qui ont de la puissance. Donc, par conséquent, déjà s'adapter et utiliser pleinement ces outils-là et leur performance, c'est déjà pas mal. Et de par le fait qu'il y a une inconstance et une instabilité qui se crée sur un flou vis-à-vis de l'usage de ces outils-là et sur leur disponibilité, ça crée plusieurs éléments. C'est soit je me dis je me rabats sur des modèles qui fonctionnent et puis on verra bien, mais je reste chez eux. Mm-hmm. Soit je vais à la concurrence. Alors la question c'est quelle concurrence ?
Oui.
C'est encore autre chose. Ça peut ouvrir le champ aussi à une réflexion plus souveraine. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, et notamment françaises, qui se le pose vraiment. Moi, j'ai été consulté plein de fois par des boîtes. Qu'est-ce qu'on fait? Et le fait de réintégrer des modèles, de travailler en local, de faire en sorte de minimiser l'exfiltration des données. Il y a des vrais questionnements aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse massive.
Les journées Mistral, alors, qui était la journée Mistral au Carrousel du Louvre à Paris, qui était le Mistral Summit, mais qui était avant cette annonce de blocage ou de restriction autour de Fable 5 et de Mythos 5, c'était le mot clé, c'était souveraineté. Tout le monde dit pourquoi je vais chez Mistral? Parce que c'est souverain, parce que je suis sûr de disposer des modèles et tout ça.
Les entreprises françaises aujourd'hui, européennes en général, ont tout intérêt à être agnostiques en termes de modèles. Mm-hmm. En gros, ça bouge tellement vite, on est tellement face à des incertitudes, la preuve en est, qu'il faut pouvoir, en quelques clics, basculer d'un modèle à l'autre. Potentiellement, utiliser des modèles chinois qui sont hébergés en Europe ou dans
avec
des zones
la direction,
qui sont...
La direction du Trésor qui utilisait Quen et puis qui se sont rendus compte qu'il y avait quelques problèmes et qui donc sont revenus vers Mistral.
Il y a des modèles chinois open source et open weight qui ne posent pas de problème parce que précisément ils offrent cette transparence-là. Ouais. La question est de pouvoir les héberger soit en local, soit sur des infrastructures souveraines. Il y a des modèles américains qui demeurent de très très bonne facture. On a des modèles français, qui sont encore un peu moins, mais encore une fois, je vais répondre à ta...
Les modèles italiens, on en parlera tout à l'heure.
Et il y a le modèle italien. Pour répondre à ton autre question, qui est de savoir, est-ce que ces modèles, ces nouveaux modèles, par exemple, GPT 5.6, Sol, valent le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se précipiter? Eh bien, ça dépend des usages. Ah oui. C'est-à-dire que si tu les utilises pour rédiger un document, répondre à tes mails ou éventuellement organiser ton agenda, tu n'as pas forcément besoin de Sol ou même de Mythos 5. En revanche, quand tu fais une analyse cyber poussée de toute ton infrastructure, tu es très content d'avoir le modèle le plus puissant du marché parce que c'est celui qui va te permettre de trouver les failles de sécurité. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et aujourd'hui, en fait, comme ça devient une arme de guerre, l'IA, on a tout intérêt à avoir les meilleurs modèles entre les mains pour pouvoir au moins se protéger, pas forcément attaquer, mais au moins se protéger. Et c'est dans ce sens que c'est très important d'avoir des modèles de très bonne qualité. Mmh.
Et c'est là où on voit l'Europe sortir du bois, Damien, qui fait les yeux doux à Anthropique. Hein, c'est le secrétaire d'État autrichien au numérique Alexander Prohl qui écrit à la commissaire européenne Eina Vikunen, l'UE devrait attirer Anthropique sur son territoire pour ne plus dépendre des décisions américaines. Moi, je vous renvoie juste, allez, je me fais ma propre pub. Il y a quelques mois, c'est ce que je disais quand Anthropique a eu le premier souci, j'avais dit, il faudrait qu'on fasse tout pour faire venir Anthropique en Europe. Alors, je m'étais fait allumer sur Twitter en disant, oui, Mistral, et c'est ça, je dis, ouais, mais allez, faisons tout pour qu'au moins cela vienne, que Dario Amodei vienne. Mais
Non, mais je pense que tu as raison, que c'est un très bon pas en avant. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un doux rêve. Hein. Ouais. Ils ne vont pas débarquer demain. Je pense qu'ils sont en train de préparer leur IPO.
Oui, surtout.
Quand bien même ils débarquent, ils seront soumis aux lois américaines. Mm-hmm. Hein, ça reste quand même une entreprise qui est majoritairement détenue par des Américains. Donc, à un moment donné, c'est bien, c'est un bon signal, mais il faut pas rêver.
Non, mais moi, j'aime beaucoup la créativité politique de cette proposition. Vraiment, je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est un pas de côté qui est peut-être irréaliste, mais que je trouve intéressant. Intéressant parce que effectivement, ils posent des questions. Tu as raison, ils font leur IPO, donc ils vont pas venir. Et ça sous-tend aussi un autre problème, c'est que l'Europe ne serait pas capable, il n'y a pas assez de capital. Aujourd'hui, ils risquent en Europe pour arriver à financer des modèles comme cela. En revanche, l'idée de s'ouvrir, la volonté de s'ouvrir à l'idée de se dire pourquoi ne pas faire venir d'autres acteurs sur le notamment américains, comme il y a quelques années, pas si longtemps que ça, Emmanuel Macron avait dit à des chercheurs américains quand Trump était revenu, venez ici. Bon, alors après il faut regarder la grille de l'indice, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil entre les acteurs, les chercheurs américains et français. Mais globalement il y avait un peu cette même idée de dire, si vous êtes pas bien là-bas, venez chez nous, ça se passe plutôt pas mal. Donc je trouve que l'idée elle est intéressante. Effectivement ça n'arrivera pas, mais ça ouvre une volonté de se dire on n'est pas que claquemuré entre nos régulations. Mm-hmm. On peut avoir la volonté d'être une terre d'asile et d'accueil pour des acteurs qui veulent faire différemment. Et ça, je pense que c'est une fenêtre qui est assez intéressante.
Ne serait-ce qu'ouvrir un laboratoire plus important.
C'est ce que j'allais te dire. On l'a déjà vécu. On l'a vécu avec Meta, on l'a vécu avec Google. Ils ont débarqué à Paris.
Samsung,
hein. Ils ont travaillé avec des ingénieurs français et pour autant, ça n'a pas changé radicalement même leur structure.
Même moi, oui. Bruno, comment tu vois ce côté ? Alors, je sais pas, peut-être que le Canada fait la même chose aussi avec Anthropique. Là, il y a juste la frontière à passer. Ça peut être un peu plus facile, entre guillemets.
Il y a eu des discussions avec des gens de OpenAI, déjà avec le gouvernement fédéral. Mais si tu me permets, je veux juste revenir à la question précédente que tu avais posée à mes collègues sur le panel. Et je te dirais que probablement qu'il y a seulement 10% des gens qui nous regardent qui pourraient, puis des gens, je parle d'organisations et d'entreprises et de chercheurs qui pourraient bénéficier de l'utilisation de la plus récente, le plus récent modèle, Mythos ou Fable 5. Pour le reste, ils peuvent aller avec ce qui est déjà sur le marché et ils auront amplement d'outillage pour réussir leurs choses. Mais pour revenir à ta question actuelle, je te dirais que moi, j'avoue que j'ai souri ce matin quand j'ai vu cette proposition-là et même à l'époque quand tu l'avais mentionné, parce qu'on m'a dit oui, ça vous ferait un joueur de plus sur le terrain, sauf que ça règle tellement pas votre question de souveraineté parce que ces gens-là sont attachés sur le continent américain avec les lois américaines et du jour au lendemain, qu'est-ce que ça aurait changé si Anthropique avait été en Europe avec l'histoire de Mythos 5? Pouf, vous n'y aurez pas plus accès qu'aujourd'hui.
Donc, on.
Avec quand même une question que ça pose, Damien. On est quasiment sur une réponse politique ou diplomatique. En utilisant un levier, on va dire business ou industriel, et qui pose quand même une question. Est-ce que il y a une volonté, un doux rêve ou une réalité à venir qui est de monter des industries et on va dire souveraines en Europe, mais ça va prendre du temps. Il faut avoir les capacités, les ingénieurs, l'argent, etc., etc. Est-ce que le fait de faire venir un acteur, un autre joueur sur le terrain, comme tu dis Bruno, qui pourrait peut-être inciter certains acteurs européens à aller plus vite, c'est peut-être une réponse assez pragmatique dans un court terme, mais qui n'empêche pas le fait qu'il y aura autre chose qui va se construire derrière. Mais aujourd'hui, on a ce gap-là. L'Europe régule, elle fait ce qu'elle peut, elle essaie de construire vite, elle se rend compte qu'elle a du retard, et pour l'instant, il manque un milieu de terrain. Donc, comment on fait ? C'est une réponse qui n'est pas idiote, même si, a priori, compliqué qu'elle arrive.
Ouais, moi j'aime bien tout ce type de proposition, d'ouverture. Oui. Ici, on sait que ça ne va pas aboutir, mais il y a une démarche qui est faite. Pourquoi pas faire venir quelque chose, faire comme ce que les autres ont fait.
Ça masque un problème de fond, c'est qu'on s'attache à essayer de rattraper un retard qu'on a pris depuis 10 ans. Alors qu'on devrait s'attacher à développer les technologies de dans 10 ans. Mm-hmm. Donc, arrêtons de regarder en arrière. C'est fait. N'essayons pas de rattraper notre retard. Développons les technologies qui arrivent.
D'ailleurs, on en parle moins. Bruno, à Québec, il y a des acteurs de type Mistral, des gros acteurs canadiens qui sont en train de monter en puissance.
Oh, tout à fait. On a l'équivalent de ce qu'on appelle, vous l'appelez aussi OpenAI. Ouais. Chez nous, il y a Cohere, qui C-O-H-E-R-E, qui encore récemment a fait une acquisition en Allemagne en achetant un joueur qui est en train de développer ses propres solutions. En IA, et ces gens-là, regardez-les dans votre rétroviseur parce qu'ils s'en viennent avec de l'investissement en Europe. Et ça, c'est une alternative. En tout cas, au Canada, le gouvernement fédéral n'en a que de bons yeux et de bons propos à leur endroit. Et plusieurs entreprises que je connais utilisent et ça rivalise assez facilement avec ce que les Américains nous proposent. Mm-hmm. Sauf que c'est pour les entreprises privées. C'est pas un particulier qui peut utiliser ces solutions-là.
Oui, alors on reviendra parce que on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on est tous en train de regarder, il y a le Tech Sovereign Package là, qui est en train de regarder différentes montées, quelque chose, tout un package de suite IA, enfin, on parlera de ça, mais et dans ce cadre-là, justement, moi j'avais jamais entendu parler d'Omin, une start-up italienne, on va revenir dessus. On va marquer une courte pause, on va se retrouver juste après avec nos amis Damien Douani, Michel Lévy-Provençal et Bruno Guiguel-Minetti. On va parler d'Elon Musk, qui a des petits soucis avec Starlink, il y a surtout des gros soucis avec l'Union européenne. Donc on va voir ce qu'il peut faire, et puis on reviendra évidemment sur cette IA italienne, en parlant aussi d'un plan complètement dingue sorti par la Corée du Sud de 1000 milliards d'investissements autour de l'IA. Ben oui, on parle des Américains, il faut aussi parler des Corées du Sud. Allez, courte pause, on se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez Tech & Co, la quotidienne c'est reparti, on est ensemble jusqu'à 21h mais avec nos débriefeurs jusqu'à 20h30, encore une demi-heure ensemble, et bien entendu si vous avez manqué le début, bien ce sera en replay, en podcast et sur la chaîne YouTube avec Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative, fondateur de Topos. Bruno Guglielminetti, il était avec nous à Vivatech il y a quelques jours en personne, et bien là il est à distance, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique là-bas outre-Atlantique, au Québec. Et puis Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et d'une start-up qui s'appelle Captain.
Oui.
Et on en dit un mot, qui vient de lever 1 million, c'est ça?
Oui, on vient d'effectuer une levée. Elle est toute neuve, cette start-up. C'est une start-up d'IA. À part qu'on ne se positionne pas du tout sur les modèles, on développe en fait une ferme d'agents, des assistants personnels. Et chaque agent qui est disponible sur votre mobile est capable d'agir. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher des informations de votre système d'information, qui est capable d'envoyer des mails, qui est capable d'organiser votre agenda. Bref, ça n'est pas un chatbot. C'est vraiment un agent personnel qui a une identité, qui a une personnalité et qui apprend au fur et à mesure que vous l'utilisez. C'est basé sur la technologie OpenClaw dont on a déjà parlé
donc plusieurs Captain, reprises. Et on suivra ça, tu nous en reparleras bien entendu. Ouais. On part avec Elon Musk, donc c'est le bras de fer entre Starlink et l'Union européenne. Hein, l'Union européenne qui prépare une réforme des fréquences satellitaires mobiles. On en a parlé il y a quelques jours avec François Sorel dans la bande des 2 GHz, alors qui est crucial pour le direct to device, c'est-à-dire connexion directe avec son smartphone. Et Bruxelles leur souhaite réserver les 2/3 des fréquences. Alors pour 1/3 plutôt à des acteurs européens, notamment Iris Carré, des administrations, pour un autre tiers à des nouveaux entrants, mais plutôt européens, et puis pour un dernier tiers, eh ben on verra. Et là-dedans, du coup, Elon Musk, il se reconnaît pas. Et donc, alors l'objectif de l'Union européenne, c'est évidemment réduire la dépendance à Starlink. Mais si tout cela se fait, bien Elon Musk, il menace déjà de représailles, Damien.
Oui, je pense que le feu aux poudres a été mis avec le fait que il y a eu la question de couper les faisceaux au niveau de l'Ukraine, puisqu'à l'origine, c'est lui qui avait ouvert la communication lorsque l'Ukraine est rentrée en guerre avec la Russie. Et que, après, différents éléments ont fait, écoutez, finalement, moi, je vais couper. Hein. Je pense que l'Europe s'est rendue compte, à nouveau, qu'il y avait un problème de souveraineté. Télécom, alors, en plus, les télécoms, c'est un truc qui chatouille les Européens, parce qu'on est quand même à l'origine de beaucoup de choses au niveau des télécoms, ne serait-ce que la norme GSM qui a donné, on va dire, la téléphonie mobile mondiale. Donc, d'un seul coup, de se rendre compte qu'on peut se faire contourner, ça pose un peu souci. Donc, d'où la volonté de rattraper le retard, et ça, on sait faire sur des Iris Carré et autres acteurs. Donc là, effectivement, l'Europe régule à nouveau, joue un petit côté, tord le bras, fait vraiment une clé de bras, et alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, dans tous les cas de figure. ça prouve quand même que l'Europe, quand elle est, à mon avis, elle a des bonnes assises, et là typiquement les télécoms c'est le cas, c'est très bien quand même faire cas de certaines représailles ou montrer que elle s'est montrée un peu offensive. On va voir un peu ce que va donner les représailles ou la réponse d'Elon Musk, mais bon, il va pas se fâcher, mais il va pas être content.
Bruno, comment tu vois ça depuis Québec?
Ah ben, c'est un nouveau match de bras de fer entre l'Europe et Elon Musk. Il n'en est pas à son premier. Mais j'ai hâte de voir comment il va réagir, d'autant plus que lui, bon, c'est beau le service Internet avec Starlink, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est son réseau interplanétaire, pour montrer comment il s'en va, mais pour son réseau planétaire mobile qu'il est en train de mettre en place là en premier lieu aux États-Unis. Et là, lui, il veut s'assurer que ses clients qui vont acheter des Trump Mobile, des Musk Mobile, vont être capables de pouvoir circuler librement à la grandeur de la planète pour profiter de son réseau de l'espace. Et si les Européens commence à lui jouer, à lui mettre des bâtons dans les roues, c'est évident qu'il va réagir. Alors, de quelle façon il va réagir, on va le voir. C'est une question de semaine, probablement. Mais vous êtes en train de l'embêter quelque peu.
Oui, ben ça c'est le but. Et puis derrière, on a aussi on a Amazon qui arrive avec son service Léo. Et puis on a nos Européens qu'on attend toujours avec IrisSquare. Alors plutôt pour les entreprises. Hein. Là, on est Iris au carré. Ce sera vraiment côté entreprise. Mais voilà, qu'est-ce qu'on risque de l'autre côté, Michel?
En fait, c'est la question. Qu'est-ce qu'on risque? Parce que si l'intention de l'Europe, c'est de nous faire gagner du temps pour ne pas avoir un Musk qui gagne tout de suite le marché. Pour développer des solutions européennes et véritablement être un acteur dans la course, moi je dis allons-y à 200%. C'est plutôt une bonne chose. En revanche, si à côté de ça, on n'a pas d'acteur, il risque rien effectivement, mais si on n'a pas d'acteur qui propose l'équivalent de ce que va proposer Musk, c'est-à-dire du satellite au téléphone mobile, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va juste être en retard par rapport au monde entier. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas une stratégie de souveraineté qui consiste à réguler, mais à côté aussi une stratégie qui consiste à faire remonter des acteurs.
Ouais, après, c'est compliqué hein, le direct au mobile, parce que autant quand on a une antenne satellite, quand on a une réception satellite au sol, hop, ça pointe vers le satellite, c'est très bien. Autant quand on est en mouvement, c'est quand même le brouillage. Enfin voilà, faut être.
Oui.
Enfin l'histoire de fréquence.
Oui, mais il faut quand même voir un cran d'après. Je veux dire, si tout cela, je parle du grand public, on peut parler B2B, mais disons grand public. On a aujourd'hui dans des téléphones, prenons l'iPhone qui est devant moi, qui a déjà une antenne satellitaire intégrée, et on peut l'utiliser, d'ailleurs c'est l'argument qui est de dire, dans les zones où il n'y a pas, c'est une zone blanche, vous pouvez recevoir du satellite. Demain, Apple passe un accord avec un acteur comme Elon Musk ou autre, et tout de ce coup, il y a un milliard de terminaux qui ont accès à ce réseau-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bypasser, contourner des acteurs historiques des télécoms que sont, par exemple, un Orange, qui d'un seul coup se retrouve démonétisé, déprécié, avec des actifs qui sont leurs antennes. Alors bien sûr, ça va continuer à être utilisé, mais d'un seul coup, leur business model de base, et qu'ils ont très chèrement payé, se retrouve quand même partiellement démonétisé. Donc ça pose un vrai problème industriel derrière, et sur lequel, je le répète, l'Europe avait quand même une vraie avance et une vraie maîtrise. Donc ça pose vraiment un questionnement derrière qui est non négligeable sur des acteurs, notamment européens.
Surtout que derrière, les Américains pourraient aussi prendre des... Enfin, tu vois, si il n'est pas content, Elon Musk, il va se plaindre auprès de Bruxelles, mais aussi il va aussi se plaindre du côté de la Maison Blanche, où il a toujours ses entrées. Et puis là, du coup, si on commence à nous supprimer, si on commence à jouer sur Inmarsat, sur d'autres
sujets... Oui, ça peut y avoir des rétorsions aussi. Inmarsat ou Telsat qui seraient effectivement bridés ou verrouillés sur le marché.
Voire demander à Jeff Bezos d'annuler tous ses envois de satellites via Arianespace. Enfin voilà, ça pourrait être... Les mesures de rétorsion peuvent être assez fortes. Après, moi, je discute pas mal avec les gens des gens qui travaille justement dans cet univers des satellites. Elon Musk, c'est quand même un cow-boy. Enfin, on le sait, c'est un cow-boy, mais tu vois le côté, en plus, on sait quand il y a des satellites qui se croisent, en général, celui qui est le dernier arrivé, il éteint. il s'éteint pour laisser la priorité à celui qui était déjà positionné. Bon, Elon Musk, il n'en a rien à faire de ça. Les satellites passent, ça coupe les communications des autres. Enfin, bon, c'est là, on a, je sais que notamment nos satellites français, enfin européens, il y a des zones, ils sont obligés de les éteindre au-dessus de la Russie, au-dessus de la Chine. Elon Musk, il s'en fiche complètement. Ça reste allumé. Bruno, il y a ce côté cow-boy aussi d'Elon Musk.
Oui, et lui, il est en train de monter son réseau. Et sa priorité, c'est son réseau. Et il n'a que ça en tête. Et quand on regarde, c'est arrivé au fil des deux, trois dernières années là où il y a eu des incidents où les opérateurs de d'autres réseaux satellitaires se sont plaints justement du côté cavalier de l'équipe. Il n'y a pas seulement Elon Musk, mais il y a les gens qui travaillent pour lui. Ils ont pas vraiment l'oreille sensible quand on leur dit « mais faites attention dans une semaine, dans deux semaines, si votre satellite numéro 24 poursuit sa course, il va frapper le nôtre. » Ben, ça prend du temps avant qu'il réagisse. Oui. Et donc, mais lui, sa priorité, c'est que bon, ben, si un satellite qui meurt, il y en a un autre qui suit après, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs de satellites. Et ça vient jouer là-dedans. Alors oui, il est tout à fait cavalier dans son approche, dans la mise en place, dans l'installation. Il y a encore des dizaines de milliers de satellites là qui vont être lancés dans la prochaine année. Alors, à un moment donné, lui, c'est vraiment l'offensive très sérieuse. Alors, quand on voit l'Europe arriver en disant, en brandissant, ben nous, peut-être qu'on va vous compliquer votre vie, c'est pas le genre de propos qu'il aime. Et je pense qu'il pourrait être sérieux dans les moyens qu'il va prendre là, pour répondre
C'est-à-dire, on a toujours du mal à comprendre ces bras de fer. C'est-à-dire, quand c'est les Américains, on a toujours l'impression qu'au bras de fer, ils vont nous battre, quoi qu'il arrive. Enfin, ils ont plus de poids que nous. Moi, je me pose aussi la question. Alors, c'est super intéressant, si vous avez l'occasion, allez retrouver en replay. C'est François Sorel qui recevait il y a une dizaine de jours Eva Bernacke, qui est l'ancienne présidente de Telsat et qui a sorti un livre sur l'espace. Mais justement, François a interviewé sur pas mal de questions. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller plus vite sur Iris Carré, Damien?
Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment, effectivement.
On pourrait mettre un peu la pression sur les ingénieurs en disant, bon, les gars, là, on y va, quoi.
Mais parce qu'on a en face un Elon Musk, voilà. Il y a une doctrine qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre. D'abord, une aversion au risque qui n'est pas du tout la nôtre. Mm-hmm. Je te rappelle qu'il passe son temps à envoyer des fusées dans l'espace qui explosent.
Dit oui,
donc la version risque n'est pas la même. Ensuite, c'est un cow-boy. C'est-à-dire qu'il est en permanence sur la ligne rouge. C'est ce que les Américains disent, tu agis et après tu t'excuses éventuellement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il a une puissance financière derrière lui qui n'est pas la nôtre.
Donc, même si l'action a un peu baissé.
Et puis un dernier élément, c'est que Iris Carré, c'est un programme qui est financé par l'Europe. Donc, c'est un programme qui a une initiative politique, avec tout ce qui va derrière, en termes, on va dire, de lourdeur administrative pour la mise en place d'un programme comme celui-là. Ça, les Européens, on sait faire, les consortiums, on est très bons là-dedans. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour mettre en place tout ça. Et effectivement, comme vous le dites, messieurs, on a en face de nous quelqu'un qui va vite, qui a une idée en tête et qui pressure au maximum. Et qui est un cow-boy, oui, avec ses avantages et ses inconvénients.
Est-ce que ça pourrait être... Parce qu'on imagine si l'Europe maintenait un peu son bras de fer et réussissait à avoir suffisamment de puissance dans le poignet, donc des pertes de marché sans doute pour Starlink, puisqu'il serait limité à un tiers des fréquences, un impact financier. L'Europe, c'est quand même un gros pays pour lui. Je crois que c'est 10 millions d'utilisateurs mondiaux en 2026, c'est ce qu'il vise, 20 millions fin 2026. Et puis, mais peut-être, est-ce qu'il peut y avoir aussi un risque réputationnel, même si on voit qu'on a un peu vite oublié qu'Elon Musk était le bras armé de Donald Trump à un moment politique. Ça peut empêcher les gens de revenir, de le remettre un peu dans leur...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des situations où il était dans une... avec une image bien pire que celle dans laquelle il est aujourd'hui. Il arrive à s'en sortir. Il a aussi une base de fans très importante, même en Europe. Alors, elle n'est pas très importante, mais elle est très active en Europe. Et puis, après tout, c'est un innovateur. Ouais. Et c'est un innovateur de génie. On peut tout dire de Musk. Okay. Effectivement, il a des positions politiques qui sont détestables. Il a aussi une manière de faire qui est très cavalière, cow-boy. Ouais. Mais en même temps, c'est le plus grand et innovateur. C'est le plus grand innovateur.
Tesla, ça marche. Neuralink, on va attendre de voir.
Bah oui. C'est la réalité.
Enfin, on voit que ça Starlink. Et puis, il y a toujours, moi, ce que je trouve incroyable chez lui, c'est qu'il a toujours ce deuxième coup. C'est, il sort les batteries.
Il a toujours un coup d'avance.
Il sort les fusées. Et puis derrière, c'est Starlink. Neuralink, on peut imaginer que derrière, il va avoir autre chose. Enfin, voilà. X, pareil. X, il cherche un pouvoir dans les médias. Ben, on voit aujourd'hui que, oui, derrière, ça va être son IA qui va essayer de pousser. Bon, même si elle est un peu moins puissante que les autres, on voit qu'il a toujours une deuxième couche qui est prête, un peu comme les armées napoléoniennes. Là. Il y a le premier bataillon qui en prend plein la figure, et puis le temps qu'on recharge, mais il y a le deuxième bataillon qui arrive, et puis qui lui dessoude les autres. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ce sujet. On va rester avec l'Union européenne qui place ses espoirs. Alors on revient aussi par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans la première demi-heure de cette émission. L'Union européenne qui place ses espoirs dans la start-up italienne Domine pour créer un modèle d'IA open source. Alors, c'est 24 langues, c'est 400 milliards de paramètres. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est un... Bon, tant mieux pour l'Europe, mais est-ce que... Je crois que Mistral avait postulé.
Ouais. Bon, c'est un deuxième Mistral. En
fait. Ouais, c'est un deuxième Mistral. Mais
dans ce sens...
À quoi on joue là?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est encore en train de regarder la bataille avec un rétroviseur. On est en train de regarder la bataille qu'on aurait dû mener il y a 10 ans. On a 10 ans de retard. Arrêtons d'essayer de rattraper notre retard. Là où on peut dire quand même que c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle, c'est qu'il va arriver un moment où il va y avoir une commoditisation des modèles d'IA. Mmh. Tous les modèles vont plus ou moins, pour le grand public, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, se valoir. Et donc, c'est bien d'avoir des modèles, même si ce ne sont pas les plus puissants, qui sont 100% souverains. C'est le cas de Mistral. Et c'est bien aussi qu'on en ait d'autres. C'est bien qu'il y ait de la concurrence européenne parce que c'est comme ça qu'on crée un écosystème.
On ne l'affaiblit pas un peu?
Non, au contraire. Je pense que la stratégie qui consiste à tout mettre dans un même panier est catastrophique. Il faut créer de l'émulation, il faut créer de la concurrence. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Après, que ça ne masque pas les enjeux de demain. Les enjeux de demain, c'est l'orchestration. Les enjeux de demain, ce sont les applications. Les enjeux de demain, c'est l'énergie. Les enjeux de demain, ce sont les technologies émergentes, dont le quantique, par exemple.
Donc, et sur lequel on n'est pas trop mal placé, en plus.
On est en
énergétique
bien,
et en quantique. Bien. Pour rebondir là-dessus, c'est que ce qui est intéressant avec cette société, c'est que c'est pas qu'un LLM, hein. Ils ont aussi une gouvernance, ils ont un Colosseum, qui est une infra de calcul que voudrait avoir, enfin, comme le propose aussi Mistral. Donc, il y a une volonté de faire. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'Europe essaye de se donner un projet. Mmh. Parce que c'est pas juste de sauter sur la chaise en disant, il faut un LLM, il faut une IA. Là, ils ont essayé de se donner un projet qui est, voilà, il faut une infra, il faut un outil qui nous permette de dialoguer dans les 24 langues. Bref, l'Europe n'a jamais été aussi bonne que lorsqu'elle se donne un vrai objectif et qu'elle se dit, on y va. Après, c'est peut-être pas les meilleurs. Des fois, ça a très bien marché. Airbus, dans d'autres cas, non. Mais on est bon quand on se donne un objectif et on est des ingénieurs. Et derrière, on déroule.
Pourquoi on n'embarque pas aussi Mistral, tu vois, c'est qu'on prend une start-up italienne et on se dit...
On n'est pas dans les secrets des dieux, ni des appels d'offres et autres évaluations. Est-ce que Mistral, qui d'ailleurs, soit en passant, est aujourd'hui quand même plutôt bien placé d'un point de vue français et européen, comme pas mal poussé d'un point de vue politique aussi, hein. Bon, et Mistral qui prend des positions aujourd'hui sur ce qui est notamment défense. Donc, il y a certainement une volonté. Enfin, il n'y a pas que Mistral, et tant mieux. Je veux dire, c'est très bien qu'il y ait d'autres acteurs. Oui. Comme tu le disais, on va pas avoir tous les mêmes acteurs mettre ces dans le même panier, donc c'est très bien. Et ce que je trouve intéressant, voilà, c'est ça. C'est le fait de se dire, il n'y a pas uniquement une volonté défensive ici, il y a une volonté de se donner une ambition, parce que ça va donner, avec un acteur européen, tant mieux, et qui permet quand même de développer des choses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un peu rafraîchissant. Ça ouvre plutôt la fenêtre à quelque chose qui est différent de uniquement on est en défensif.
Bruno, est-ce que ça te convainc de rejoindre l'Europe avec, avec tout ton pays, avec tous tes compatriotes?
Moi, je vais rester derrière le courrier canadien. Mais j'étais surpris de voir cette annonce-là parce que moi, je les connaissais sous le nom de... L'an dernier, il s'appelait encore Igenius.
Igenius, oui.
C'est ça. Ouais. Je cherchais le nom. Ouais.
Oui, puis ils avaient lancé bon, un super ordinateur IA. Je l'ai trouvé intéressant, mais je voyais Mistral qui prenait toute la place en Europe. Alors, j'ai trouvé ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a un Italien qui arrive dans le décor. Mais ce que je trouve le plus intéressant, suite à la discussion qu'on a eue ce soir, c'est que, pour les mêmes raisons, Frédéric, que tu disais, ben, ce serait bien si Anthropic vient s'installer en Europe pour stimuler les troupes, ben, de voir un joueur comme Domingue qui vient prendre de la place devant, un, on voit qu'il n'y a pas que Mistral. Oui. Et là, il y a comme une synergie qui va se créer. Moi, je trouve que c'est sain pour l'Europe, ça.
Est-ce que le vainqueur, c'est pas un peu... celui qui ressort de tout ça, c'est l'open source?
Oui. Juste pour compléter un point, cette stratégie qui consiste à avoir des acteurs moyens, parce que Mistral est un acteur moyen, Domine est un acteur moyen, c'est en fait la stratégie chinoise. Mmh. David Bavrez, qui est aujourd'hui un investisseur qui vit en Chine, et qui, enfin à Hong Kong pour être plus précis, et qui parle de la loi de Pareto au carré, qui est très simple. La loi de Pareto, c'est utiliser 20% de tes ressources pour atteindre 80% des résultats. D'accord ? Et donc, la loi de Pareto au carré, c'est utiliser 20% de 20%, autrement dit 4%, pour atteindre 80% de 80%, c'est-à-dire 64%. Et donc, en faisant ça, on a besoin de très peu de capitaux, mais on atteint pas forcément le meilleur modèle, on atteint la moyenne que le grand public va pouvoir atteindre. Et c'est un peu cette stratégie, parce que comme on a du retard, il nous faut quand même une souveraineté sur les usages moyens, mais mettre le poids du corps, mettre le paquet sur d'autres briques. Où là, on va être les meilleurs. Mm-hmm. Mais pas essayer d'être les meilleurs là où on a 10 ans.
C'est le principe, hein, je l'ai rapidement cité tout à l'heure, c'est le Tech Sovereign Package européen qui indique voilà, tout un ensemble ils ont regardé toutes les couches IA en disant voilà, quels sont les choix européens qui peuvent se présenter à des entreprises, à des administrations. Et donc,
Et puis, ça répond à ta question tout à l'heure, hein, Fred, qui était est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ChatGPT 5.6, d'un Fable 5 ou autre, comme le disait Michel il y a quelques instants. On est dans cette frénésie aujourd'hui parce qu'on est un peu comme les lapins dans les phares de la bagnole. On se dit waouh, il faut pas rater le truc. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Quand je dis on, c'est les entreprises, certaines entreprises, certains milieux. Et ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils ont avant tout besoin d'un modèle qui fonctionne à la hauteur de leurs usages et de ce qu'ils attendent de faire. Donc là, on voit émerger des acteurs qui finalement, comme tu le disais, sont des acteurs moyens mais de bonne facture. Et qui finalement peuvent très bien faire le job et qui vont répondre à cette question peut-être de la souveraineté ou autre. Donc le jeu est vraiment intéressant et il s'ouvre vraiment de manière assez intéressante, surtout par rapport à ce qu'on disait, si les Américains ont tendance à brider leurs propres champions.
Alors on va continuer à parler de souveraineté, mais on va parler de souveraineté coréenne. Enfin, Corée du Sud, vous l'avez compris. La Corée du Sud qui présente son plan colossal d'investissement dans les semi-conducteurs avancés, les data centers pour l'IA. C'est un plan à plus de 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Le président coréen l'a dit, la vitesse est la seule voie de survie. On l'a bien compris hein, aujourd'hui avec cette innovation galopante. Bon, on pourrait revenir dans les détails. Alors c'est Samsung et SK Hynix qui sont dans le deal évidemment. Alors, au début, on pensait comme ce sont deux des gros producteurs de puces mémoire, ça allait se concentrer sur les puces mémoire. Puis on voit que non, c'est beaucoup plus global. Hein. Ce sont des centres de calcul, ce sont des data centers, ce sont évidemment des centres de production. On va écouter quelques détails de ces investissements qui a été présenté en grande pompe ce matin. Et puis on revient pour en parler juste après.
Nous allons faire de la région du Sud-Ouest un deuxième pôle de production de semi-conducteurs. Nous allons construire 4 usines de puces. Grâce à des investissements, c'est devant à 454 milliards d'euros.
D'ici 2035, un centre de données dédié à l'IA d'une puissance de 10 gigawatts sera construit en Corée du Sud pour un investissement total dépassant les 18,4 gigawatts et s'élevant à 568 milliards d'euros.
Bruno, je démarre avec toi. Voilà, la Corée du Sud qui veut peser aussi, évidemment. Ils ont leur géant Samsung, c'est celui que l'on cite le plus souvent, mais évidemment, ils ont SK Hynix, ils en ont beaucoup d'autres. Puis même les industriels comme Hyundai sont aussi présents dans tous ces domaines. Ils ont le groupe LG. Enfin, vraiment, ils ont ces immenses conglomérats. C'est une nation profondément technologique. Hein. Il faut rappeler que la Corée du Sud, quand même, géographiquement, ils n'ont que des ennemis autour d'eux.
Hein. Oui, c'est clair.
Entre la Corée du Nord, la Chine, le Japon, où ils s'entendent moyennement, oui, hein. Et puis l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et le moyen qu'ils ont trouvé pour se défendre, c'est le.
Et c'est les États-Unis quand même qui les soutiennent. Donc c'est une clé d'entrée pour les Américains.
Bruno, comment tu vois un peu ces investissements?
Évidemment, c'était la chose à faire. Hein. Ils n'avaient pas le choix, c'était le chemin à prendre. Là, ce qui restait à savoir, c'était la hauteur des sommes qui allaient être investies. Donc, c'est du sérieux, c'est du lourd. Mais vous vous souviendrez, hein, il y a trois, quatre semaines qu'il y avait eu le conflit de travail qui s'est soldé par...
Chez Samsung, oui.
Ouais, une cagnotte assez importante qui était offerte aux travailleurs. Et à ce moment-là, il y avait le gouvernement qui avait dit, si vous réglez pas le problème, nous, on va intervenir. Parce que l'avenir de l'économie du pays passe par ces entreprises-là, ces travailleurs-là, ou accessoirement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement était très sérieux par rapport à l'économie qui est en place et conscient que s'ils investissaient pas et s'ils se mettaient pas à jour dans ce domaine-là, ils allaient perdre leur place et justement les ennemis tout autour d'eux, ben ils allaient prendre le marché. Alors évidemment, ils devaient aller devant et je suis content pour eux de voir la somme qui va être investie, autant du gouvernement que de l'autre côté de Samsung. Hein.
Oui, c'est ça. Samsung va investir 648 milliards pour capitaliser donc sur l'explosion de l'IA. SK Hynix est dans le sujet. Et c'est vrai que tu le rappelais il y a quelques semaines, dans ces deux entreprises, hein, notamment, elles sont tous les deux elles font un chassé croisé pour la plus grosse valorisation. On est aux alentours des 1000 milliards, voilà, selon les jours. De temps en temps, c'est l'un qui est devant l'autre. Et justement, les collaborateurs, les 70 000 collaborateurs de Samsung en Corée du Sud, voulaient, ça aurait été plus compliqué, voulaient un peu toucher les fruits de tout cela. Ils ont menacé d'une grève et voilà, ça s'est négocié. Enfin, c'est monté très loin parce que là, on jouait sur l'économie du pays. La Corée, on doit aussi compter sur eux, surtout un acteur comme Samsung qui est présent sur toute la chaîne de valeur.
Alors, la Corée, c'est un acteur qui a depuis longtemps misé plutôt sur le matériel, l'infrastructure. Un peu moins d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps en Corée, on voit un peu moins de la technologie comme on la voyait dans les années 2000 comme étant à la pointe dans les rues coréennes. C'est moins le cas aujourd'hui. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que 1000 milliards, c'est ce que dépensent quasiment les Américains, non pas en 10 ans, mais en un an.
Oui, c'est ça.
Donc l'échelle...
Ils ont lancé 700 milliards.
Oui, c'est ça. Donc l'échelle n'est pas du tout la même. En revanche, ils ont mis... eux, le poids du corps, là où ils sont forts, c'est-à-dire les infrastructures, les puces. Si jamais on devait s'inspirer un peu de cette stratégie, c'est de dire, un, mettons les moyens, deux, ne les mettons pas là où nous sommes en retard, mettons-les là où nous sommes très forts. Encore une fois, l'énergie, probablement le nucléaire,
le quantique.
Peut-être le quantique, et les applications au-dessus de modèles open source. Parce que on est très fort.
On est fort dans toute cette couche. Alors chez Nvidia, on appelle ça CUDA. Là, c'est toute la et nous, on est plutôt fort dans ces couches de développement et toutes ces boîtes à outils de développement. Oui. C'est vrai qu'on a toujours été. Et que ce soit nous, en tant que Français ici en France, mais aussi nos ingénieurs français qui sont hyper bons. Exactement. Enfin, c'est une bonne formation en mathématiques. Voilà, c'est pour ça qu'ils mènent aussi des grandes équipes. Enfin, ils dirigent de grandes équipes. Ces Français chez les acteurs américains. Damien.
Oui, après, comme disait Michel, ce qui est intéressant, enfin, moi je me rappelle quand j'étais en cours d'histoire géo, il y a longtemps maintenant, on est d'accord, on me parlait quand même de la Corée comme un pays qui était émergent, qui était un pays en voie de développement, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une volonté à un moment de dire, on prend sérieusement ça et on développe des chabols, donc leur conglomérat, et on investit justement sur ce qui veut faire notre force d'un point de vue électronique.
À l'époque, je crois qu'en taille, c'est à peu près notre nombre d'habitants, non ? Il doit être à 60 millions d'habitants, je crois, la Corée.
Un peu moins, si mes souvenirs sont bons. Mais très clairement, avec cette volonté de se dire, on a une stratégie industrielle forte pour préparer le futur et arriver à émerger, ce qui donne aujourd'hui des Samsung, des LG, des SK Hynix, etc., etc. Donc c'est extrêmement intéressant de se dire que ce pays-là a eu cette volonté culturelle, cette volonté industrielle de s'en sortir, pas en voyant le futur et en misant sur le futur. Ça a marché. Donc le fait de les entendre dire, maintenant on met 1000 milliards sur la table et on recommence le truc, avec cette culture-là, de se dire, on s'en est sorti une fois et ça a marché, donc on va y repartir, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui ont pensé ça et ils y vont sérieusement. Donc, je trouve que c'est un vrai signal intéressant, comme tu le disais, Michel, de se dire que c'est des gens qui ont une vraie vision et qui courent pas après leur passé, qui courent après leur futur avenir, si je peux dire.
Et Bruno, c'est peut-être un message aussi envoyé, un message à 1000 milliards, ça fait cher le SMS, mais c'est un message aussi envoyé aux Américains en disant, regardez, les gars, battez-vous avec les Chinois, ayez vos propres. Mais nous, on est bien là aussi et on vous le prouve en mettant 1000 milliards, même si c'est sur 10 ans, comme le dit Michel.
Et en passant, j'ai beaucoup aimé la lecture de Michel parce que c'est tout à fait ça. Mais c'est effectivement, je ne suis pas sûr que Washington a apprécié cette annonce de la Corée du Sud parce qu'ils sont en train de leur envoyer le message que, ou le SMS qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'eux. Mm-hmm. Et autant avec les décisions de l'administration Trump des dernières semaines qu'encore hier et avec l'actualité sud-coréenne, les Américains, à un moment donné, il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment en train de creuser leur trou, parce qu'ils sont en train et je parle même pas au niveau politique, là, mais au niveau des associations industrielles, économiques, il y a énormément de partenaires qui étaient naturels, qui étaient là, qui faisaient le business avec eux depuis longtemps. Ils sont en train de les laisser tomber un après l'autre. Alors, à un moment donné, il y a sûrement quelqu'un qui va se rendre à compte de la réalité, là. Mais je ne sais pas comment ils vont se sortir de là.
Michel?
En fait, si on ramène au nombre d'habitants, je fais un rapide calcul, ouais, ça fait 20 000 dollars par habitant et par mois
investi
dans l'IA. Donc, 20 000 dollars par habitant, si on le ramène à l'échelle européenne, mm-hmm, si mes calculs sont bons, on en reviendrait à un programme qui est 10 fois supérieur, c'est-à-dire un programme équivalent au programme américain. Mm-hmm. Donc, ils ont adopté le rythme d'investissement des Américains à leur échelle. Mm. Et nous, on est 10 fois en dessous.
Et puis, j'ai bien dit ce que tu disais, en capitalisant sur leur force.
Capitalisant sur leur force. Ouais. Donc, imaginez un instant qu'on fasse le même bond en capitalisant sur nos forces.
Après, le fait est qu'effectivement... ils ont quand même un acteur comme Samsung qui est pionnier, ou tout au moins qui a une position de force sur les mémoires HBM, donc les mémoires dédiées à tout ce qui est IA, qui aujourd'hui, quand on voit la flambée des prix de la RAM, parce que justement aujourd'hui c'est la production de la RAM IA.
Tous les gros industriels, je parlais du groupe LG, mais voilà.
Oui, bien sûr.
Hyundai.
Donc il y a quand même, ils ont aujourd'hui une position en termes d'infrastructure, on va dire, de technologies, d'infra qui sont proposées, qui sont non négligeables, et qui se font un contrepoids avec un éventuel, on va dire, la Chine qui pourrait se fâcher. Donc il y a véritablement, enfin Taïwan, etc. Donc il y a véritablement de leur volonté, une volonté géopolitique aussi de se positionner là-dessus, en jouant le rôle de, on pourrait être un autre partenaire. Donc quelque chose qui se joue.
On essaiera, tiens, je vais en parler avec François Sorel. Ce serait bien de faire un jour un peu un spécial Corée du Sud, l'avoir.
Tu veux partir là-bas, c'est ça aussi, tu connais tous.
Allons-y. On sait qu'à Taipei, il y a le grand. Ah non, Taipei, c'est Taïwan.
Non, c'est pas où c'est Taïwan.
C'est très intéressant.
Séoul et Busan aussi. Moi, j'allais à Busan sur la côte, là, qui est un peu le Marseille coréen, où il y avait de grandes infrastructures aussi pas l'intelligence artificielle à l'époque, mais dans le numérique. Merci à tous les trois. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Michel Lévy, provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness, et donc
de Captain, de QAPTEN.com.
Voilà, et allez-y, voilà, si vous voulez une IA que l'on peut utiliser. Et puis bravo pour cette levée de fonds. Et Bruno Guglielminetti, qu'on retrouve toujours avec grand plaisir, journaliste animé de mon carnet de l'actualité numérique. Allez-y, abonnez-vous, lisez toutes ces news. Comme ça, on reste toujours dans cette actualité. Allez, on marque une courte pause. La Tech Flash dans un instant avec Léa Benaïm. On revient, on parlera de Nebius. Tiens, Nebius qui a investi 8 milliards d'euros pour un centre de calcul à Béthune, dans le nord de la France. Et puis, dans le nord de la France, oui. Et puis, Cita, c'est cette agence qu'on utilise tous quelque part quand on prend l'avion, quand on passe par les aéroports. Eh bien, on va parler de comment retrouver les bagages avec eux. Vous allez voir, ça peut coûter très cher. Mais moins avec l'IA. Allez, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.